Et il est 12h30 sur Principe Actif, l'heure de Radio Super Pouvoir, votre émission qui décortique le monde des comics et des super-héros. Alors installez-vous bien, bon appétit et bonne écoute. Et bonjour tout le monde, chers auditeurs, c'est Guillaume et je vous souhaite la bienvenue dans cette 10e émission de Radio Super Pouvoir. Déjà 10 émissions et en ma compagnie pour décortiquer l'actu des comics et des super-héros, j'ai l'immense joie de retrouver Cédric. Bonjour Cédric.
Et bonjour Guillaume, bonjour à tous nos auditeurs. Et oui, 10 émissions déjà, hein, ça va, hein. On est pas mal.
On a réussi à tenir 10 émissions déjà.
Déjà beaucoup. Voilà. Alors, c'est quoi le programme aujourd'hui ?
Alors, le programme placé sous le signe des super-héros pop, vu qu'on va vous parler des Power Rangers, des Micronautes et de Spider-Man.
Attends.
Des confettis, des couleurs.
Non, mais attends, Guillaume, il n'y a pas de Tortue Ninja cette fois-ci ?
Non. Même en actu.
Comment ça ? La première émission, il a fallu qu'on en attende 10 pour ne pas avoir de référence aux Tortues Ninja.
Exactement. Ah, je n'ai pas le script sous les yeux, donc je suis même pas sûr que ça passe. Ah si, il y a une sortie, je crois.
Ah bon, voilà. Non, je
vais... vous allez découvrir avec nous. Bref, même moi, j'ai plus le script en tête.
Vous m'avez dit qu'on progressait un peu, et je m'étais dit que tiens, une émission sans Tortues... Non, en fait, non. Voilà.
Ah bah, et vous allez en bouffer, hein, surtout qu'en 2025, il y a 12 sorties de Tortues Ninja prévues uniquement chez iComics. Alors en plus, maintenant que Vestron s'y met, vous allez en manger.
Je pense que je vais vous laisser, en fait. C'est ma dernière émission avec vous. Voilà.
Cédric abandonne suite à une overdose de tortue.
Voilà. Allez, revenons un petit peu au programme du jour.
Actu, sortie, critique et dossier.
Voilà.
Et on envoie le petit jingle, je vais pas essayer de pas me tromper cette fois, et on passe aux actus. Une astu qui est passée très discrètement chez Vestron, bon, c'est parce qu'ils ne l'ont pas annoncé sur leurs réseaux sociaux, j'ai trouvé ça sur leur site web. Ils vont publier la série Power Rangers de Marvel, donc la série des années 1990 qui se faisait en parallèle de la série télé. Plutôt intéressant, en tout cas pour les collectionneurs et les gros fans des Power Rangers, ça peut être intéressant. Et une autre annonce chez Marvel cette fois, une annonce absolument surréaliste, un nouveau crossover, non pas avec un, mais avec deux Predators qui vont affronter Black Panther pour la conquête du trône des Predators. Que dire ? Que c'est toujours Ben Percy au scénar. Il sera accompagné de Chris Allen au dessin. Si vous le connaissez pas, c'est le dessinateur de la série actuelle Black Panther. Il a fait aussi du Miles Morales. Pour l'instant, on a eu que la première couverture de notre ami Ken Lashley qui a été dévoilée. Et une page. Alors, est-ce que ce sera aussi nanardesque que Predator versus Wolverine ? J'espère, parce qu'au moins c'est rigolo et ça détend. On va bientôt vous présenter ce Predator versus Wolverine, car ce sera une émission spéciale crossover. La première, car une seule émission ne suffit pas. On attend d'en savoir plus, mais je vois que cette news a porté un coup décisif à Cédric dès le début de l'émission.
Moi, d'entrée, si t'attaques avec un Predator versus Wolverine par Ben Percy et Chris Allen, alors que je connais pas, ouais, je vais dire un seul truc, c'est que je crois que je suis trop vieux, hein, pour ce genre de conneries, comme disait l'autre. Bon, faut jamais préjuger, hein, d'un comics à sa cover, surtout quand elle est signée par Ken Lashley, mais bon...
On sent que tu l'aimes bien, lui.
Mais j'aimais beaucoup Ken Lashley, j'y croyais beaucoup quand on l'avait mis sur Excalibur, et puis après, il y a eu cette série en 30 épisodes qui était signée par J.M. Straczynski, Rising Stars, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, Ken Lashley, bah, il est parti du mauvais côté. Moi, j'aimais bien ce qu'il faisait vraiment sur Excalibur, tout ça. J'étais plus ou moins fan de Ken Lashley, et maintenant, je dois avouer que ça m'intéresse plus du tout. Predator est un personnage qui m'intéresse moyennement, Wolverine, pareil. Predator versus Wolverine, voilà mon niveau d'intérêt. Je pense que je préfère aller chez le dentiste, en fait, plutôt que de lire ça.
On va découvrir ça à la prochaine émission.
Après, encore une fois, voilà, ça peut être aussi un récit fun, sympa, et il faut pas non plus le démonter avant de l'avoir lu, mais moi, clairement, c'est pas quelque chose vers lequel j'irai. Voilà. Mais bon, moi, côté news...
vas nous parler de Batman, c'est bien ça.
Ouais, je vais être un peu énervé, là. Je suis un peu énervé aujourd'hui, voilà, je m'excuse auprès de tous les auditeurs. Voilà, puisque j'ai appris l'annonce de Batman The Last Halloween. Alors, pour ceux hein, qui ne connaîtraient pas, Batman The Last Halloween, c'est, on va dire, la troisième itération hein, d'une histoire qui a commencé il y a plus de 25 ans hein, et qui s'appelait Batman The Long Halloween, qui était une maxi-série de 12 épisodes qui ont été publiés par DC Comics et qui est certainement l'une des meilleures mini-séries consacrées à l'homme chauve-souris, puisqu'elle fait le tour de tous les personnages emblématiques et le tour de tout l'univers Batman en 12 épisodes, ou 13, je ne sais plus, avec un côté très policier. C'est une enquête, c'est un meurtre, et Batman, pendant les 12 épisodes, il va essayer de trouver qui a tué un tel. Il y a plein de rebondissements, désolé. Et bah en fait, c'est une mini-série qui est simplement extraordinaire et que je conseille à tout le monde. En plus, elle est dessinée par le dessinateur Tim Sale, qui joue énormément avec les ombres, avec les couleurs. En plus, il ne voit pas les couleurs, Tim Sale. Hein, voyez pas les couleurs, mais il joue beaucoup sur les graphismes. C'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Et la mini-série, elle est vraiment, enfin la maxi-série, elle est vraiment fantastique, quoi. C'est une histoire que je recommande à tous. Batman The Long Halloween. Alors, comme ça a marché, comme ça a connu beaucoup de succès, eh ben, les deux auteurs ont fait une suite qui s'appelle Dark Victory dans le même format, c'est-à-dire 12 épisodes. Et c'était déjà beaucoup moins bien. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait à raconter avait déjà été fait dans Long Halloween. Dark Victory, ça marche beaucoup moins bien. Et voilà pas que maintenant, on va nous annoncer donc une deuxième suite, 25 ans après. Et moi, ce qui me pose un problème, bah, c'est que Tim Sale, hein, le dessinateur qui était vraiment accolé à cette série, c'est-à-dire que vraiment, Long Halloween, c'est Jeff Loeb au scénario, Tim Sale au dessin. C'est cette équipe-là qui a fait énormément de choses. Chez Marvel, ils ont fait du Daredevil Yellow, Hulk Grey, Captain America White. Enfin, ils ont fait plein de choses là-dessus. Bah, sauf que Tim Sale, en fait, il est décédé il y a quelques années. Et là, moi, j'ai des problèmes. Jeff Loeb, ça fait au moins 10 ans qu'il a plus rien écrit pour les compagnies. Je crois qu'il est parti dans le cinéma et la télé, Jeff Loeb. Le dernier truc qu'il avait écrit, c'était Ultimates 3 avec Joe Madureira, hein, dont on va... Voilà, qu'on va oublier. Donc, Jeff Loeb, on fait revenir Jeff Loeb, qui a plus rien écrit depuis un moment, pour faire la suite de Long Halloween sans Tim Sale. Moi, ça me chafouine un peu. Alors, ils ont beau, là, d'ici à beau eu communiqué en disant ça va être un grand hommage à Tim Sale et on va prendre des dessinateurs au style très sombre. Ok, d'accord, pour réaliser la suite. D'ailleurs, chaque épisode de la nouvelle mini-série va être réalisé par un dessinateur différent. Pour l'instant, on nous a sorti Eduardo Risso hein, de 100 Bullets, Klaus Johnson, hein, la légende. Donc, c'est plutôt intéressant graphiquement et je nie pas qu'il y aura énormément de qualité. Moi, je dis simplement que c'était peut-être pas la peine de surfer sur cette série-là, et que si Jeff Loeb avait encore quelque chose à raconter sur The Long Halloween, on aurait peut-être pu le faire autrement sans ramener la mémoire de Tim Sale. Ça m'embête un peu. Je pense que j'irai, hein, voilà, mais... ce genre de projet-là, comme Before Watchmen, hein, par exemple, où ils avaient essayé de réaliser des comics autour de Watchmen sans l'aval d'Alan Moore, là, ça ressemble plus à quelque chose de commercial qu'à une réelle volonté artistique et à un réel hommage à faire. Donc, ça m'énerve un peu, même si j'irai voir, parce que, voilà, Jeff Loeb, il a fait des trucs bien pourris, mais il a fait aussi de très, très bonnes choses. Et puis, bah, tout de suite, dès qu'on sort Eduardo Risso, Klaus Jensen, au dessin, c'est que ça vaudra le coup d'œil. Je pense qu'il y aura peut-être du Bill Sienkiewicz, j'en sais rien. Si on doit rester sur cette catégorie de dessinateurs qui savent jouer avec les ombres et avec le noir, le grand coup, ce serait de mettre Mike Mignola dessus, quoi. Mais je pense pas qu'il le fasse. Et même s'il le faisait, et même si on avait les meilleurs dessinateurs de l'univers, je trouve ça un peu dommage de reprendre une série de ce type-là sans Tim Sale, en fait. Voilà. Alors, on parlait de séries. Alors là, je vais passer niveau série télé hein, pour ma deuxième news, puisqu'on a vu apparaître donc l'arrivée d'un teaser de Sandman saison 2, hein, la série, l'adaptation du comics de Neil Gaiman sur Netflix, hein, qui a eu lieu il y a 2 ans maintenant. Bon, on va voir la saison 2. Et là, on nous présente l'intégralité des Endless, hein, c'est-à-dire des frères et sœurs de Sandman, avec notamment Destiny, The Prodigal, je dirais pas son vrai nom parce que c'est un spoil, voilà, et puis bah, Delirium, hein, qui sera interprété par Esme Creed Miles. Et là, je demande à voir, parce que bon, clairement, cette saison 2, elle va adapter l'arc Brief Lives de Sandman. Et Brief Lives, c'est mon arc préféré de Sandman. C'est même limite un de mes arcs préférés de tous les comics, depuis l'existence des comics. Voir adapter ça à l'écran, j'ai de gros doutes, surtout sur le personnage de Delirium. Delirium qui va être très 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 compliqué, à mon sens, à adapter en version télé. C'est un personnage qui marche très très bien dans les bandes dessinées, avec ses bulles de couleurs qui pop un peu partout, et son apparence changeante, puisque rappelons-le, hein, Delirium, elle change tout le temps d'apparence au fil du récit. Elle prend même l'apparence de la chanteuse Tori Amos, hein, qui était une des amies intimes de Neil Gaiman. Donc, je ne connais pas l'actrice, je sais qu'elle a joué dans certaines séries télé que je n'ai pas vues, donc je ne vais pas la juger non plus. J'ai très 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 peur du personnage de Delirium à la télé. Après, même si certains n'ont pas trouvé la série extraordinaire, moi j'ai trouvé que l'adaptation de la saison 1 tenait la route. Elle avait été écrite en plus par Gaiman, hein, lui-même. Il est encore ici aux commandes, je pense qu'il ne fera pas n'importe quoi. À voir. Voilà, à voir. Du coup, le fait qu'il y ait un teaser me dit que bah, la série devrait peut-être sortir dans pas trop trop longtemps. Voilà pour les news. Bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Là, on arrive à peu près vers l'été et il va y avoir
creux, de moins en moins de période creuse. Ouais. Bah, voilà. Merci Cédric. On va passer maintenant aux sorties. Le 5 juillet chez Vestron. Oh, les Tortues Ninja Adventures tome 2.
Ah bah voilà.
À 18,95€. Et le même jour, le GoGo Power Rangers tome 2. Ça tombe bien. On va parler du premier tome un peu plus tard dans cette émission. Et le 10 juillet, là on va chez Panini Comics. Donc en premier, le second tome de Conan le Barbare dont on vous a parlé dans la précédente émission. Celui-ci sera proposé à 16€. La pagination est un peu moins volumineuse, c'est pour ça. Et surtout, la sortie de l'été 2024, même la sortie de l'année, je dirais, Deadpool Badderblood, écrit et dessiné par Rob Liefeld. À seulement, attention, le prix est exceptionnel, seulement 18€. Que demander de plus dans la vie, hein, Cédric ?
Eh ben, alors, franchement, moi, j'ai pas lu Deadpool Badderblood, et donc écrit et dessiné par Rob Liefeld, mais je crois que je commence à de plus en plus le défendre, en fait, Rob Liefeld. Ok, il est pas très bon, il fait des raccourcis abominables sur ses dessins, ses scénarios, bon, sont pas extraordinaires, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on peut pas nier à Rob Liefeld, bah, c'est que c'est un fan de comics et qu'il adore ça, quoi. Voilà. Et cette volonté, ce côté fanboy de comics, bah moi je le retrouve plus dans la grande majorité des histoires que je lis depuis maintenant quelques temps chez Marvel ou chez DC, où la plupart du temps on a des crossovers qui sont aussi cons, hein, que les histoires de Rob Liefeld, avec des aventures sans intérêt, des personnages interchangeables, et puis bah finalement des scénaristes et des dessinateurs totalement inconnus et pas très très bons qui se succèdent sans avoir aucune connaissance de l'œuvre. Alors ouais, Rob Liefeld, c'est certainement pas le meilleur, mais c'est un des plus passionnés. Et rien que ça, et puis tout le monde a tellement tendance à lui tomber dessus, à ce pauvre Rob, que bah maintenant, moi j'ai limite envie de le défendre. Alors oui, j'ai relu ces X-Force il n'y a pas si longtemps. C'est pas très bon, voilà, c'est pas très bon, c'est très 90, voilà, ok, d'accord, mais, ben sincèrement, moi on me demande de relire CX-Force, j'ai limite plus de plaisir qu'à lire un Predator versus Conan, dont on a parlé la dernière fois, donc, oui, est-ce que je vais l'acheter ? Non, vraiment ! Parce que je sais ce qu'on va y trouver, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais en tout cas, on peut pas nier que bah, cet auteur, il aime ce qu'il fait, et que mine de rien, bah, il a derrière lui une petite fanbase à qui il fait plaisir. Donc en fait, Rob Liefeld, il se fait plaisir à lui, il fait plaisir aux gens qui l'achètent, et on sait ce qu'on va y trouver. Donc bah clairement, peut-être qu'il se fout moins de la gueule des gens que ce qu'on pense, en fait. Voilà, donc bah, aujourd'hui, je vais défendre Rob Liefeld.
Pour moi, c'est une très bonne analyse, parce que j'ai lu les deux premiers en VO, et... Bah... Voilà, c'est le genre de comics qu'on lit, on a la banane après, ça fait plaisir, on sent que le mec est passionné, qu'il s'amuse à le faire, c'est ça qu'on sent vraiment, on sent pas le truc formaté, quoi, on sent que le gars, il s'amuse, quoi. Ça lui fait plaisir de faire ça, puis il se prend pas la tête. Pour moi, c'est en fait, on pourrait dire que c'est comme Mark Millar, mais moi, c'est l'inverse d'un Mark Millar, parce que j'ai relu les Ultimates, et il y a des trucs vraiment puants là-dedans, et il y a pas ça chez Rob Liefeld. Par exemple, les trucs avec Bush et tout, dans les Ultimates, en plus, ça tombait justement de la guerre en Irak, donc on voit ça, on se dit, oh, mais c'est puant, quoi. Rob Liefeld, j'ai jamais vu ça.
Non, non, ils sont
chez Millar, c'est omniprésent, quoi.
Bah, disons que Liefeld a un discours... En fait, il n'a pas de discours, donc de fait, il peut pas lancer des messages qui peuvent être plus ou moins ambigus ou trop. Parfois, voilà, on lit un comics de Rob Liefeld, on sait qu'on va rien en ressortir. Il y aura pas, ce sera pas engagé. Alors, est-ce qu'un comics doit toujours être engagé ? À voir, ça, c'est un débat qu'on pourra peut-être avoir un de ces jours aussi sur l'émission. Pourquoi pas ? Moi, j'aime bien quand les comics sont engagés, quand l'auteur a un discours derrière qu'il arrive à étaler sur plusieurs numéros. Moi, j'avais beaucoup aimé les Ultimates 1 hein, de Millar, que j'ai pas relu depuis, hein, donc voilà. Mais j'avais pas vu le discours puant. Après, je l'ai lu il y a très très longtemps et je dois avouer que non plus, j'avais pas vu des fois les discours puants de Millar sur Gimme Liberty notamment. Mais bon, là, j'étais vraiment très très jeune. Donc, je sais pas, faudra peut-être que je le relise. Marc Millar, moi, il m'intéresse de moins en moins, effectivement. Et on sent que la plupart des choses qu'il fait, c'est commercial. Alors, est-ce que ce que Rob Liefeld fait, c'est commercial ? Bien évidemment. Le problème, c'est que je pense que lui, il prend quand même plaisir à faire ça, voilà. Ou que tout du moins, il laisse transparaître dans ses planches un certain plaisir. Alors oui, il y a des bras qui disparaissent, il y a rien qui va, mais bon, et on va pas, lui enlever ça. C'est-à-dire que je pense que voilà, Rob Liefeld, c'est quelqu'un qui est sorti dans les années 90. On en parle encore, 35 ans, 40 ans après, Rob Liefeld, les gens le connaissent. Est-ce que les gens connaîtront Daniel Warren Johnson ou Sean Michael Murphy ? Je fais exprès, hein, je pousse le bouchon un peu loin. Voilà, dans 30 ou 40 ans, je suis pas certain.
Puis ses créations comme Deadpool restent quoi, grâce au film. Et justement, Panini sort à la même date, donc le 10 juillet, une collection à petit prix à 4,99€ intitulée La collection Deadpool versus. Il y aura tout un tas de titres et ce sera sur le même format que les Marvel poches, comme Ultimates et Ultimate Spider-Man. Bonne occasion pour découvrir des titres.
Là-dedans, il y a des très très bonnes choses, mais il y a des trucs qui sont largement en dessous de ce que peut produire un Rob Liefeld. Hein.
Il y a du sous Rob Liefeld, notamment le Punisher Deadpool, bon, dont je suis pas fan. Mais on en reparlera, je pense. Parce que je crois que tu as une sortie à ce moment-là que tu veux nous conseiller absolument.
Ouais, pareil. Alors c'est vrai que là, voilà, vous voyez, je défendais le Rob Liefeld, donc... On va dire que j'ai un discours un peu mesuré. Mais là, moi, il y a un comics à éviter fin juin chez Panini. Hein, c'est la réédition deluxe de la série Venom de Donny Cates et Ryan Stegman, qui a connu un net succès hein, auprès des lecteurs et qui a entraîné de nombreux crossovers à la noix. C'était King in Black.
Absolute Carnage et King in Black. Alors, c'est la honte parce que moi, je les aime. Je vais pas dire que je les aime, mais je l'apprécie. Ça me fait marrer, mais voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas un chef-d'œuvre non plus, c'est clair.
Moi, sincèrement, vous me vendez le Venom de Donny Cates et Ryan Stegman. C'est en dessous de la plupart des productions Image des années 90. Hein. Voilà. Stegman, j'aime pas. Donny Cates, c'est écrit. Il y a pas d'âme. Il y a rien. Franchement, ça ne vaut pas mieux. Donc, on n'a peut-être pas l'habitude. Voilà, c'est peut-être pas, et ce sera peut-être une unique fois où on va le dire. Mais moi, je vous conseille pas du tout cette série Venom en Deluxe. En plus, Deluxe, c'est un format qui est très très cher. Vous allez avoir
32 euros.
Si vous voulez la suite de cette histoire, faut aller sur 4, 5, 6 crossovers. Bon, voilà, je vois pas l'intérêt. Mais oui, mais après, voilà, si que des gens l'apprécient, c'est très bien aussi. Il en faut pour tous les goûts, voilà. Moi, en tout cas, j'ai pas aimé ça. À voir. Et de toute façon, ça marchera, puisque Venom est un personnage qui marche, hein, que ce soit dans les comics ou dans les films. Hein. Je rappelle que le film Venom 2 hein, a connu une grande réussite à l'époque, même si c'est clairement un des pires films qui m'ait été donné de voir dans ma vie. Voilà.
J'ai une solution pour toi, pour mettre fin au règne, comme dirait Chipsdarsky, du tyran Ryan Stegman. Il faut publier encore plus de Rob Liefeld, et moi j'attends avec impatience la suite de Major X et Cable First Contact.
Ouais, après, il ne faut pas non plus pousser. Voilà, faut pas non plus pousser. T'as eu d'autres trucs, toi, chez DC, non ?
Chez DC, le second tome d'Hitman que tu m'avais conseillé d'ailleurs, et je te remercie pour ça parce que je connaissais pas à l'époque. Cette fois-ci, c'est toujours Garth Ennis et John McCrea en tant qu'équipe créative. Proposé à 40€ au lieu de 39 cette fois. Et franchement, il n'y a pas de raison d'accrocher. Hein. Pour rappel, c'est le personnage Tommy Monaghan qui est un tueur à gage irlandais à Gotham City. Alors, dans le premier tome, j'espère que vous l'avez lu, sinon faites-le, il vomissait son burger sur Batman et il humiliait ce gros radin de Green Lantern interne parce qu'il voulait pas lui payer une bière. Ça, c'est vraiment, c'est très marrant. Et c'est bien, surtout. C'est
alors, franchement, bien. Voilà, Garth Ennis, il est connu en ce moment parce que ça a été le créateur de The Boys et de Preacher. Hein, mais là, c'est plus pour les fans de comics. Là, tout le monde vous dira The Boys. The Boys, sincèrement, c'est la pire série comics de Garth Ennis. C'est celle où il n'y a rien qui va, où c'est de la provoque gratuite, où ça n'a ni queue ni tête. Et cette série, elle est pas bonne. Elle est juste pas bonne.
Bah, il est en roue totale parce qu'il n'a pas de contraintes. Et on se dit des fois, certains auteurs ont besoin de contraintes.
Alors, même pas, parce que de fait, Garth Ennis, les gens ont tendance à le voir comme un scénariste provoque. Mais en fait, pas du tout. Garth Ennis, dès qu'il veut rentrer un petit peu dans la sensibilité, il y arrive très très bien. Et où est-ce qu'on le voit ? Eh ben, on va le voir notamment sur Hitman, alors qu'il y a une de ses plus vieilles séries, hein, voilà. C'était avant qu'il fasse The Boys, hein, je sais plus, par rapport à Preacher, où ça se situe peut-être en même temps. Hitman, il a intégré son cynisme, son sens de l'absurde, tout en le cadrant dans un récit de super-héros. C'est-à-dire que c'est introduit à l'univers DC, c'est dans l'univers DC. Hitman, il va rencontrer Superman, il va rencontrer Batman, il va se foutre de la gueule de Batman, hein, clairement, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh ben, il va nous proposer à un moment, et ça tu vas le voir je pense dans le tome 2, une histoire super intéressante avec Superman qui est tout en émotion. Et là on se dit que Garth Ennis, eh ben, il sait très bien écrire. Donc lâchez The Boys, revendez-le, achetez les intégrales Hitman, voilà.
Tu as une petite news sur Superman aussi, fin juin, ouais, il y a une sortie.
Moi il y a vraiment un comics que j'aime bien, c'est le Superman Chronicles, ce que nous sort Urban, c'est-à-dire les éditions dans l'ordre chronologique de toutes les séries Superman. Il y en a un qui arrive fin juin. Et c'est le tournant, c'est là où John Byrne va laisser de plus en plus la place à Marv Wolfman et tout ça. Et bah, je peux que vous conseiller cette collection, parce que j'aimerais vraiment voir la suite, même si des omnibus vont sortir aux États-Unis. Voilà.
Pareil, j'ai une intégrale début juillet chez iComics, donc le tome 4 des Tortues Ninja, toujours à 39,95. Donc c'est un nouvel arc. Cette fois, c'est la première prestation de Sophie Campbell sur la série régulière, qui a géré un arc pendant que Matheus Santoluco faisait une pause, et ce dernier vient vraiment en force à la fin. Si vous avez aimé le tome 3, enfin, lisez le tome 4, hein, y a vraiment pas de raison de pas aimer. Bon, on est un peu à la bourre, je lance le jingle et on passe aux critiques. Alors, je l'ai évoqué, le GoGo Power Rangers tome 1, la série de Dan Mora, enfin de Ryan Parrott et Dan Mora, qui a été lancée à la fin des années 2010, en 2017, avec suite au succès de l'arc Shattergrid, dont on reparlera lorsqu'il sortira en France en septembre, normalement. Donc c'est une série qui est parallèle à la série principale, mais qui est surtout conçue pour les nouveaux lecteurs de comics Power Rangers, et c'est vraiment là le gros intérêt de ce comic book. Donc il faut pas oublier que la série régulière reprend les bases de la série télé des années 90, donc même univers, même personnage, le statu quo qui exactement le même qu'à la fin de la série. Et dans GoGo Power Rangers, on revient au tout début, c'est-à-dire quand le Ranger rouge, le jaune, le bleu, le rose et le noir ont reçu leur pouvoir. Donc il y a Jason, il y a Trini, il y a Billy, il y a Kimberly, il y a Zack. Tommy, le Ranger vert, le préféré de tout le monde, il n'est pas là, parce qu'il n'apparaît pas encore dans l'histoire. Et chacun des protagonistes est donc réintroduit par Ryan Parron de manière très fluide. On se dit, si on connaît la série, ça va être un peu chiant. Bah pas du tout, au contraire. Il n'y a aucune bulle d'exposition qui est inutile, tout a du sens, tout est vraiment fait pour vous faire rentrer dans le récit, vous faire vous attacher au personnage. Il y a une dynamique qui est très bien posée. Les Power Rangers, ils vont donc affronter Rita Repulsa, donc qui est l'un des deux principaux antagonistes de la série, qui vient tout juste de sortir de sa prison, et ils vont être mis à l'épreuve par elle et par Zordon, car ils viennent justement de récupérer leur pouvoir, donc c'est vraiment un moment très important pour nos héros. Et c'est là que, pour moi, la qualité du récit de Parrott se fait ressentir, c'est qu'il arrive à créer vraiment une vraie équipe, quoi. Il y a des tensions, il y a des choses qui vont pas entre les membres, parce que bah, c'est une nouvelle équipe, tout n'est pas parfait d'un coup. C'est très bien géré, visuellement, il y a des choses assez superbes de Dan Mora. Bon, ceux qui lisent Batman et Superman World's Finest, je pense qu'ils ont l'habitude de son style, mais là, c'est différent. C'est une série indé, donc c'est très différent. Par exemple, le premier assemblage du Megazord qui pourrait vous faire penser à certains concept art de Pacific Rim, par exemple, ce genre de choses. Visuellement, il s'éclate, hein, ça se voit. Et ce qui est bien, c'est que les dessins de Dan Mora, qui sont vraiment dans une optique spectaculaire, bah, ils vampirisent pas l'aspect émotionnel du récit. c'est vraiment une qualité, parce que parfois, j'en avais parlé sur Batman et Robin, c'était justement ça le problème. Je trouvais que c'était mal géré de ce niveau-là. Et là, c'est bien mieux géré, à mon sens. Donc, c'est un excellent récit. Les scènes d'action, comme j'ai dit, Dan Mora, vraiment, le dynamisme, il est là. Et surtout, c'est coloré. C'est pas une série toute grise, toute sombre. Il y a de la couleur, mais partout. Vraiment, au niveau des couleurs, ça pète. Et ce serait pas une série que j'aimerais lire en noir et blanc, par exemple. Les couleurs ont vraiment du sens et sont là pour apporter quelque chose. C'est pas juste on a mis de la couleur, oui, parce qu'il faut mettre de la couleur. Non, il y a un intérêt à la couleur. Pour moi, c'est vraiment une bonne série. C'est la série qu'il faut lire si on connaît pas les Power Rangers, car comme j'ai dit, c'est un récit introductif, et un bon récit introductif. Il y a, si vous aimez les récits, les team-up de super-héros, je pense que si vous aimez les Avengers, Justice League, tout ça, à mon avis, vous aimerez, hein, vu que c'est un récit sur une équipe, il n'y a pas de raison de ne pas se lancer dedans. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, Dan Mora. Alors, Dan Mora, il a travaillé uniquement sur... pour les Power Rangers, il a entièrement travaillé sur cette série, c'est-à-dire qu'il est le seul au dessin, donc il y a une cohérence visuelle, ce qui est appréciable. Ça a du sens... parce qu'ils ont fait avec Ryan Parrott le Tortue Ninja et Power Rangers tome 2, et on arrive à retrouver certaines choses entre les deux récits, visuellement, scénaristiquement, même si c'est pas tout à fait le même univers, on voit qu'il y a une sorte de continuité, visuelle en tout cas. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut lire ce titre, car ça permet de voir où en est Dan Mora aujourd'hui. C'est intéressant de comparer ce qu'il fait maintenant sur Batman et Superman par rapport à ce qu'il faisait avant sur les Power Rangers. Il y a des différences, on voit des différences assez notables. Alors, est-ce qu'il est bridé par DC? Je ne sais pas, ça je pourrais pas le dire. Mais en tout cas, c'est un récit que je vous recommande. Et la suite, comme on l'a dit, dans les sorties, arrivera très très bientôt. Donc, c'est édité par Vestron, ça coûte 17,95€ et ça fait un total de 112 pages. Et avant de passer à la suite, on s'octroie une petite pause musicale avec Mighty Morphin Power Rangers de Punk Rock Factory. Et on se retrouve juste après pour parler des Micronautes et de Spider-Man. A tout de suite.
Power Rangers, you're my
Cédric va nous recommander un petit univers qu'on a vu mais qu'on n'a pas vu en réalité dans le Ant-Man Quantumania, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait, puisqu'on est dans les comics un petit peu colorés, les comics un peu sucrés et à la base hein, pour les enfants. Moi, je vais vous parler d'un omnibus hein, qui est sorti très récemment chez Marvel en VO, au même moment hein, que l'omnibus Rome, dont on va vous parler dans un hors-série spécial, hein, il me semble. Il s'agit de l'omnibus Micronautes. Alors, les Micronautes, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un groupe de super-héros qui vit dans le Microverse. Et comme tu le disais, ben, le Microverse, c'est ce que les fans récents de Marvel ont vu dans le film Ant-Man Quantumania. Alors, c'est un univers subatomique hein, où les atomes sont des planètes hein, où les personnages sont donc microscopiques. Et à la base, hein, les Micronautes, bah, c'est une ligne de jouets de la compagnie Mego. Et Bill Mantlo, hein, qui était un scénariste important chez Marvel dans les années 70, bah, lui, il est fasciné par ces personnages parce qu'il voit son jeune fils jouer avec tous les jours. Et donc, comme Marvel est en recherche d'adaptation de licence, il va voir Jim Shooter, le rédacteur en chef de Marvel, il lui dit « Hey, on pourrait pas adapter les Micronautes ?» Shooter achète la licence et on commence donc à voir le premier comics Micronautes qui sort donc dans les années 70. Et contrairement à Rome, hein, dont on avait déjà parlé, eh ben, les Micronautes, ils ont des tonnes de figurines qui sont sorties. C'est-à-dire, il y en a peut-être une vingtaine. Donc, de fait, même si l'univers n'est pas établi, Bill Mantlo, il a beaucoup de personnages avec lesquels faire joujou, un petit peu. Et donc, Jim Shooter, l'éditeur, va lui accoler un dessinateur qui va devenir lui aussi une superstar et qui fait ses débuts, c'est Michael Golden. Voilà, hein, qui a notamment réalisé l'annual avant avec Spider-Woman et Miss Marvel. Et ça marche, la série marche. Alors l'histoire elle est très basique et c'est un peu inspiré de Star Wars, hein, on va pas se mentir, puisque c'est un groupe de rebelles qui font face à l'immonde Baron Karza. Le Baron Karza, bah, il a promis aux personnes les plus riches de l'univers d'être immortels en recombinant leur corps avec du matériel génétique dérobé sur les plus pauvres. Les plus pauvres hein, qui sont capturés et stockés dans une immense banque de corps, et puis on leur prend des choses au fur et à mesure. Donc voilà, hein, c'est du Bill Mantlo pur jus, c'est-à-dire que Bill Mantlo, ce scénariste-là dont on parle depuis longtemps, voilà, hein, qui est maintenant à l'hôpital et qui n'a plus rien écrit depuis à peu près 30 ans, ben Mantlo, il s'éclate hein, avec ses forces, c'est-à-dire une caractérisation des personnages qui marche, des idées un peu crades, hein, cette banque de corps là qui est pas très mainstream en fait, mais il y a aussi des défauts, hein, c'est-à-dire un style toujours très verbeux et un peu daté. Alors l'idée sympa, c'est que les Micronautes, en fait, ils vont pas rester dans leur univers. Au bout de 2-3 épisodes, ils vont se retrouver sur Terre, à la même taille, hein, 10 cm, hein, que les jouets dont ils sont inspirés, et ils vont rencontrer Nick Fury, les Fantastic Four, ou encore Doctor Strange. Et puis, au bout d'une douzaine d'épisodes, ben, les Micronautes, ils ont accompli leur mission, c'est-à-dire que le Baron Karza, il est totalement défait. Et je pense hein, que peut-être Bill Mantlo avait prévu sa saga en 12 ou 13 épisodes, en se disant, bah, si jamais ça doit se finir, au moins il y aura une fin classique. Et ben non, la série marche, Michael Golden s'en va, et du coup, ben, à partir de l'épisode 13-14, on va déjà avoir un tout jeune dessinateur qui lui aussi va devenir très célèbre, hein, Howard Chaykin, qui va dessiner des épisodes pas terribles, Bill Mantlo sait pas où il va, et puis ben, la série elle va prendre un nouvel essor lorsque va arriver en fait Pat Broderick, hein, un dessinateur très habitué au cosmique, puisqu'il avait dessiné déjà du Captain Marvel, où vous avez pu le voir sur Doom 2099. Ça va donner un nouvel élan à la série qui va commencer à développer son lore, et à partir de là, ça va devenir très très fascinant, avec diverses relances et des auteurs comme Butch Guys, comme Kelly Jones, qui vont venir dessus dans les prochains omnibus à venir. Donc, une série des années 70 qui a certes un petit peu vieilli, mais Michael Golden à regarder, c'est toujours hyper impressionnant, même si ce sont ses débuts. Et puis, ben, une série qui va être publié en intégralité dans 3 omnibus qui vont sortir tous cette année en VO, et dont bah, le premier tome, hein, me semble-t-il, va sortir chez Marvel, je pense, Guillaume. Enfin, chez Panini, pardon.
Chez Panini, oui, il sort normalement, il est listé sur certains catalogues le 30 octobre, donc dernier trimestre de l'année. Et c'est marrant parce qu'il sort un mois environ, enfin s'il sort bien cette date-là, après le premier tome de Rome, dont tu nous as parlé au début. D'ailleurs, l'émission sur Rome, normalement, elle arrivera cet été, logiquement, un peu avant la sortie. Ce sera hors série qu'on vous présentera pour la sortie de cet omnibus. Et je trouve ça assez chouette que Marvel il décide de republier tout ça. Parce que, comme on disait dans leur série, ça semble un peu tomber dans l'oubli, et au moins là, ça va être proposé.
Les omnibus début s'il s'adresse à des lecteurs qui ont 30, 40 ans, qui ont les moyens et qui ont connu ça à l'époque, parce que les Micronautes avaient été publiés en VF chez Haredi. Là, c'est clairement l'effet nostalgie et l'effet que ces épisodes-là n'ont jamais pu être republiés depuis. Donc non, c'est pas étonnant. Est-ce que ça va marcher ? Rome, j'en suis certain. Les Micronautes, je sais pas. Voilà.
Mais les deux sont listés à 70€, Rome et Micronautes. Donc c'est pas les omnibus les plus chers non plus.
Non, mais c'est des petits omnibus, à peu près 25 numéros, hein, plutôt que 30 ou 40. Voilà, c'est pas des omnibus tout fins, hein, ça reste de l'omnibus, mais c'est un petit omnibus. Voilà. Donc moi, je le conseille, vraiment, si vous aimez les comics, quoi, voilà, du Michael Golden, du Howard Chaykin, faut y aller, quoi, faut y aller, voilà, et les histoires, encore une fois, sont pas plus ridicules que certaines actuelles. On passe à notre dossier ?
Oui, on passe au dossier, j'envoie le petit jingle et on passe au dossier. On va enfin vous le proposer depuis le temps qu'on l'annonce, la deuxième partie de la saga du Rédempteur. C'est contenu dans les épisodes 134 à 136 de Spectacular Spider-Man, que vous pouvez retrouver, on vous donne tout de suite la liste des bouquins que vous pouvez lire, dans l'intégrale Spectacular Spider-Man, donc de 1988, et dans le tome 3 de la collection 60e anniversaire de Spider-Man, sobrement intitulé la saga du Rédempteur. Alors, si vous voulez que cet arc, partez sur la collection anniversaire, ça coûte que 7€, l'intégrale c'est 35€, voilà, profitez-en tant que c'est disponible. Alors attention, spoiler, car si vous n'avez pas lu les premiers numéros, on vous conseille de le faire avant d'écouter la fin de cette émission, enfin vous pouvez écouter malgré tout. Donc la dernière fois, on s'était laissé sur des révélations assez fracassantes. Stan Carter a été identifié comme le Rédempteur, celui qui menait l'enquête sur la mort de Jean DeWolf, bah c'était lui.
D'ailleurs, je te coupe, mais vous pouvez retrouver donc la première partie dans l'émission numéro combien ? Il me semble que c'est l'émission numéro 5. Hein.
Je vais te dire ça tout de suite. Donc si vous voulez retrouver la première partie de la saga du Rédempteur, on vous envoie vers la 5e émission de Radio Super Pouvoir pour découvrir tout ça. Donc, final explosif, une émeute devant un commissariat, parce que les habitants et les autres flics de New York voulaient lyncher Stan Carter, mais c'est aussi un final assez intimiste, car Matt Murdock révèle à Spider-Man qu'il savait qu'il était Peter Parker, et ils ont une longue conversation sur ce que serait la nature de la justice. C'est intéressant, c'est un arc qui se... enfin c'est la première partie de l'arc qui se conclut de cette façon, et on voit où sont les personnages, où ils en sont, ça semble en apparence être réglé, sauf que, un an et demi plus tard, Stan Carter est libéré de prison, car il est déclaré irresponsable de ses actes. C'est intéressant, ça fait un peu thriller politique paranoïaque, car on se rend compte qu'il a subi des expérimentations de la part du SHIELD, qu'il a été drogué avec un sérum de super soldat qui l'ont apparemment rendu fou. Et pourtant, Stan Carter ne sera pas le méchant de cette seconde partie d'arc, car ce sera Electro, qui obtient, une petite promotion de la part de Peter David, car Electro, vous l'avez, je pense, jamais vu comme ça. En tout cas, il est rarement montré de cette façon. Concernant Stan Carter, lui, le Rédempteur rôde toujours dans son esprit. On voit qu'il est mentalement atteint. Et toute la question autour de ce récit, c'est quand est-ce qu'il va finir par craquer. Donc revenons un petit peu à Electro. Dans la saga du Rédempteur, Peter David, il en fait un méchant purement narcissique et vindicatif. Il n'a pas de projet de domination mondiale ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment différent. Non, le but d'Electro dans la saga du Rédempteur, il est assez simple. Il veut simplement humilier Spider-Man et démontrer que c'est lui le meilleur, en tout. Ce qu'il parvient à faire avec succès dans un premier temps, sans enfiler son costume en plus, c'est parce que tout au long de l'histoire, Electro, donc Max Dillon de son vrai nom, il est complètement, on va dire, dégoûté de ce qu'on pourrait appeler les artifices du super-vilain. Il va jusqu'à qualifier son costume de ridicule, et son plan final, qui est de détruire le réseau électrique de New York en échange de 10 millions de dollars, en fait, ce n'est qu'un prétexte. Son but tout au long du récit, c'est de montrer qu'il est supérieur à Spider-Man. Je vous dis pas comment ça va se terminer, vous devez vous en douter. Mais Peter David, il se détache, je trouve, avec brio des archétypes classiques du super-héros. On en avait parlé un peu avec Frank Miller sur Daredevil. À cette époque, ils essayent de nous proposer autre chose, les scénaristes de chez Marvel, qui est des choses un peu plus brutes, un peu plus urbaines, on va dire, un peu plus au niveau de la rue. Peter David, on sent qu'il était vraiment fait pour écrire ce genre de récit, parce qu'il y arrive, quoi. Là où d'autres scénaristes pourraient se planter, lui, à aucun moment, enfin, on pourra trouver peut-être des petits défauts par-ci, par-là, mais à aucun moment, on sent que le récit en fait trop, c'est toujours très bien mené. Aussi, quelque chose qu'on n'a pas trop touché, c'est la question de la ville. Enfin, on en a parlé un petit peu, mais on est sur des méchants qui sont humanisés. Par exemple, il y a le dealer Jerry Jablonski qui revient régulièrement au cours de cette histoire, bah, qui est père de famille, qui a des enfants et qui est malmené par Spider-Man. Donc, moralement, la frontière est assez trouble par moments. On a des policiers qui sont bourrés de défauts, qui sont parfois plus antipathiques que les criminels. Et un héros, donc Spider-Man, qui se retrouve complètement impuissant malgré ses pouvoirs. Par exemple, à un moment, il y a un talk show avec Stan Carter auquel il assiste et il décide de venir le confronter, et Electro se pointe sur ses entrefaits et va vraiment humilier Spider-Man devant tout le monde en plein direct. Donc que dire sur la saga du Rédempteur au final ? Bon, je ne vous spoil pas la fin, car la fin elle est intéressante, si vous ne l'avez pas lu, il faut la lire. Pour moi c'est une des meilleures histoires du tisseur, enfin c'est une de mes préférées en tout cas, je sais que Cédric l'aime beaucoup aussi. Tu n'avais pas relu d'ailleurs le final depuis un an, là tu as pu le relire ?
Oui. J'ai relu le final, alors j'ai à peu près les mêmes... je le trouve... alors, donc, la saga du Rédempteur, elle est en 5 ou 6 parties, ou 5 parties, je crois. Et puis donc, 2-3 ans après, Peter David revient pour faire la suite, donc celle que tu nous as racontée aujourd'hui. Je le trouve un petit peu plus rapide. On sent hein, que Peter David, il fait des thèmes donc sur la réhabilitation des prisonniers, sur le cas de conscience d'un super-héros, est-ce qu'il doit utiliser ses pouvoirs à fond. Moi, j'ai bien aimé quand Spider-Man va confronter Carter qui est sorti de l'hôpital et qui voit un gars en béquille, tout ça simplement bah, parce que en fait Spider-Man l'a tellement frappé qu'il a qu'il l'a mutilé hein, tout simplement, et que bah, maintenant le personnage du Rédempteur, qui est un être humain, a des séquelles. Donc comment utiliser son pouvoir, c'est un thème qui est récurrent chez Peter David, c'est plutôt pas mal fait. Le revamp d'Electro, moi je t'avoue que c'est celui qui m'a le moins plu, voilà, parce que je le trouve sorti un peu de nulle part. Il en fallait un. Bon, il aurait pu prendre n'importe qui, ça aurait marché. Voilà. Ça reste quand même des bonnes histoires et il y a tout de suite une profondeur que les gens peuvent retrouver actuellement, qu'ils vont pouvoir revoir dans cette série, même si elle date d'il y a à peu près 20 à 30 ans. Il y a une profondeur d'analyse qui est plutôt intéressante parce que bah, c'est du Peter David, quoi.
Oui, ça reste moderne dans sa narration, puis au dessin. Bah, on parlait de Rome, Tenez-vous à l'affût de l'émission spéciale Rome, mais c'est Sal Buscema au dessin sur cette
arcade. Ouais, alors, c'est pas le meilleur Sal Buscema, je trouve. Je le trouve un petit peu mal ancré. Je me demande s'il n'y a pas du Vinnie Coletta dedans, dans l'ancrage.
Je crois que sur certains épisodes, c'est possible.
Voilà, donc c'est pas le meilleur Buscema. On sent qu'il fait que des esquisses. Il a fait du meilleur, hein, Sal Buscema. Après, c'est une unité graphique qui est intéressante, c'est bien réalisé, il a un sens du rythme, il a un sens de la narration qui est plutôt très bonne, donc bon, on va pas se plaindre non plus. Moi je préfère la première partie, hein, celle qu'on a développée dans l'émission 5 plutôt que celle-là. Il y a des bons thèmes quand même et on va pas s'en priver. Et puis vraiment, oui, l'édition à 7€ qui reprend les deux parties, c'est quand même plutôt intéressant si vous voulez avoir une bonne saga de comics dans vos étagères.
Alors, le personnage du Rédempteur, il n'a pas été réutilisé depuis, sauf par Nick Spencer en 2020. Je n'ai pas lu cet arc jusqu'au bout, j'ai essayé de lire le premier numéro, j'ai pas réussi. C'est vraiment pas pour moi, c'est...
Bah, j'ai pas tenté, j'étais même pas au courant, bref.
En fait, le Rédempteur, c'est une espèce de personnage qui est là pour laver les péchés des autres personnes. Enfin, si on... Moi, j'ai lu un peu de ce que fait, comment il s'appelle, le scénariste actuel de Spider-Man.
Nick Spencer ?
Après Nick Spencer, c'est qui déjà ? C'est Zeb Wells. Zeb Wells, donc ça a un intérêt, on va dire, parce qu'on comprend où se trouve Norman Osborn en ce moment dans le run de Zeb Wells, grâce à ce que Nick Spencer a fait avec le Rédempteur. Mais bon, moi, j'ai trouvé ça pénible, j'ai pas tenu jusqu'à la fin du premier numéro. Personnellement, je lisais le run de Nick Spencer uniquement pour Ryan Otley et pas sur tous les numéros, donc pour moi, ça avait pas beaucoup d'intérêt.
Peut-être jetterai un coup d'œil, je vous en dirai ce que j'en pense dans une prochaine émission.
Mais gaffe, c'est très long, c'est très très long.
On verra.
On a enfin réussi à parler de la saga du Rédempteur en entier. On est content parce que c'était quelque chose dont on voulait vous parler, parce que c'est un arc qu'on aime beaucoup tous les deux.
Oui, donc... parce que même si on a démoli un peu certaines personnes en début d'émission, et ben on est là aussi pour vous faire aimer les comics et puis vous aiguiller sur des choses que vous ne connaissez certainement pas, mais qui pourraient complètement vous intéresser. Voilà.
Oui, et c'est pas parce que ça date des années 80 que c'est mauvais, que c'est vieillot dans le dessin ou la narration. Au contraire. Hein. Aujourd'hui, on voit des comics, enfin même des BD en général, très ennuyantes et qui tiennent pas la comparaison face à ça. Hein. Enfin,
non.
Désolé, moi, je reprends du Peter David sur du Sean Murphy n'importe quel jour. Hein. Et encore, comme toi, j'aime bien ce que fait Sean Murphy au dessin, mais je suis pas fan de ce qu'il fait en scénario.
Non, mais on va arrêter de taper sur ce
Oui. Mais c'est pour mettre un point de comparaison. Peter David, normalement, revient en VF d'ici la fin de l'année avec... C'est quoi Symbiote Spider-Man 2099. Ouais, mais... J'attends de voir ça. Je ne l'ai pas lu en VO. Je ne sais pas ce que ça vaut.
Peter David, depuis la fin de X-Factor, il a eu beaucoup de problèmes de santé. Et clairement, là, c'est plutôt un scénariste qui est, on va dire, en fin de course, qui propose plus vraiment grand-chose, malheureusement, d'intéressant depuis 5-6 ans. Moi, je suis de plus en plus déçu à tel point que c'était quelqu'un que je suivais et que je ne suis plus actuellement. Après, c'est quand même quelqu'un qui a du talent. J'espère qu'un de ces jours, il saura nous redonner... raviver la flamme de ce qu'on aimait chez lui, et peut-être avec ce symbole de Spider-Man, qui sait.
Ah, sait-on jamais, on se le met de côté quand il sortira, et on vous en reparlera, à coup sûr. Merci de nous avoir écoutés, comme d'habitude, on se retrouve dans 2 semaines pour l'avant-dernière émission de cette saison 0, comme nous l'avons intitulée.
Ouais, on l'appelle saison 0 parce qu'on essaye des choses, on essaye de trouver un format, j'espère que ça vous plaît, voilà, et puis on essaye toujours de vous proposer le meilleur.
Logiquement, la semaine prochaine, on se retrouve pour les crossovers, le fameux Wolverine Predator, on va enfin le décortiquer, et on a Cédric a une petite surprise pour vous, qui est un crossover avec le Punisher et un personnage que vous découvrirez. Vous allez découvrir quelque chose d'exceptionnel, je pense. C'est du jamais vu.
Ah, je dis plus rien, c'est du spoiler.
Voilà. Donc on vous dit à dans 2 semaines, prenez soin de vous, et en attendant,
lisez des comics.
À bientôt.
À bientôt.